Bonjour et bienvenue sur la web radio des 1G3. Aujourd'hui, dans les diverses chroniques que les élèves de notre classe ont fait, on va vous parler de différents phénomènes sonores. Et pour commencer, on va aller avec Charles et Gabriel qui vont nous faire découvrir trois instruments insolites à l'occasion de la fête de la musique.
Tout à fait, Khalil. Et encore merci de nous avoir invités aujourd'hui. Le premier instrument que je vais présenter, chers auditeurs, est le han. D'ailleurs, en train d'en écouter un morceau. Vous êtes sans doute en train de vous demander pourquoi vous n'avez jamais entendu cet instrument. Eh bien la réponse est très simple, c'est un son très récent. En effet, le han était inventé par Felix Rohner et Sabina Scharrer à Berne, en Suisse. Cet instrument fort insolite fait partie de la famille des didiophones, c'est-à-dire qu'il fonctionne grâce à des percussions. Pour vous représenter visuellement cet instrument, chers auditeurs, il faut vous imaginer que cet instrument est composé de deux parties en forme de lentilles qui sont collées ensemble de manière à avoir une caisse de résonance. La première partie, celle du haut, s'appelle le ding. Elle se différencie par sept creux qui permettent de jouer les différentes notes, en plus de la bosse au centre, servant à jouer la note fondamentale. La deuxième partie, celle du bas, est quant à elle caractérisée par un trou qui sert à faire ressortir les sons. Et fait surprenant, le han est l'un des seuls instruments au monde où la sortie du son est située en bas, car cet instrument est destiné à être posé sur les genoux.
Et pourquoi cette forme, Charles ?
Très bonne question, Khalil. Cette forme est due à ses origines indiennes, où il fabriquait cet instrument de la terre cuite. Mais je laisse Gabriel nous parler de cette région, qui est sa région de prédilection.
Merci, Charles. En effet, l'instrument que j'ai présenté à nos auditeurs est l'ocarina. Cet instrument tire son nom de l'Italie, qui signifie « petit oie ». En effet, cet instrument ressemble à la tête d'une oie, auquel on aurait percé un trou en bas et en haut, ainsi que 6 à 10 trous en fonction de l'époque sur le côté, de manière non alignée afin de jouer les différentes notes possibles dans la gamme chromatique. Cependant, cet instrument insolite que vous êtes en train d'écouter actuellement ne provient pas d'Italie comme l'indiquerait son nom, mais plutôt de nombreuses cultures il y a 12 000 ans, notamment dans les cultures mésoaméricaines et surtout en Chine, où même aujourd'hui cet instrument continue d'évoluer dans sa forme et son nombre de trous. L'ocarina, malgré sa faible présence en France, s'est à l'inverse très popularisé en Amérique latine.
Merci de nous avoir présenté ce très ancien instrument, Gabriel. Nous allons terminer cette émission avec Charles qui va nous présenter une variante étrange de la guitare, le tambourin à cordes. C'est bien cela ?
Cela y ressemble. En effet, le tambourin à cordes possède une forme rectangulaire et possède 5 à 9 cordes, le classant dans la catégorie des instruments à cordes frappés. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer qu'à cet extrait que vous êtes en train d'écouter, que ces sons sont caractéristiques d'un instrument à cordes, ou aussi d'un tambourin. Cet instrument peu courant trouve ses origines dans la culture bernaise, gascogne, ou même basque, où on l'appelle tuntun en basque.
Merci beaucoup. Sans plus tarder, Azal, Manon, Maël et Maëlys vont nous expliquer pourquoi les prix des enceintes varient.
Bonjour à tous. Nous sommes des élèves du lycée Sylvia Montfort et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux prix des enceintes. En effet, nous avons remarqué qu'il existe de nombreux prix variant en fonction des modèles et des marques, allant de 4 000 euros pour les plus chers à 35 euros pour les moins chers. Nous nous demanderons donc pour quelles raisons les prix des enceintes varient-elles. Tout d'abord, il faut savoir qu'une enceinte est un coffret comportant un ou plusieurs haut-parleurs permettant la reproduction du son à partir d'un signal électrique fourni par un amplificateur radio, intégré ou non.
De plus, des dispositifs électroniques comme les
filtres y sont souvent incorporés. En effet, un filtre va permettre d'assigner une plage de fréquence à chacun des haut-parleurs qui, eux, sont des transducteurs ayant pour rôle de convertir l'énergie électrique reçue en énergie mécanique. Il va exister en fait trois types de haut-parleurs. Tout d'abord les tweeters pour les sons aigus, donc des hautes fréquences. Ensuite les graves médiums pour les fréquences graves et médiums. Et les woofers pour les sons graves et donc de très basse fréquence.
Le nombre de haut-parleurs varie selon la taille de l'enceinte. Si elle est petite, il y aura des haut-parleurs de deux voix, un grave et un tweeter. Au contraire, si l'enceinte est grande, ce sera des haut-parleurs de trois voix, un grave, un tweeter et un médium. Ainsi, le haut-parleur est l'élément le plus important. Il implique le processus électromécanique où le signal audio amplifié doit déplacer un cône. C'est un autre dispositif mécanique pour produire le son de façon fidèle à l'onde sonore originale. C'est le processus le plus compliqué.
Le cône est un élément fixé à l'électro-aimant qui va amplifier les vibrations en émettant les ondes sonores dans l'air ambiant et vers les oreilles. La fréquence des vibrations régit la hauteur du son produit et l'amplitude affecte le volume. Enfin, l'électro-aimant est une bobine métallique qui crée un champ magnétique lorsqu'un courant électronique le traverse. Lorsque des impulsions d'électricité traversent cette bobine, elle est attirée et repoussée par un autre aimant, vibrant d'avant en arrière. Pour terminer, le prix des enceintes varie en fonction de la qualité des haut-parleurs et des différents éléments à l'intérieur des enceintes.
Merci. Maintenant, Margot et Zoé qui vont nous parler des sons et surtout de l'état de nos oreilles face à cette exposition.
Oui, aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi les oreilles des vieux sont-elles meilleures que celles des jeunes aujourd'hui.
Il est intéressant de noter que les capacités auditives peuvent varier d'une personne à l'autre, quel que soit son âge. En général, il est vrai que les jeunes ont tendance à avoir une meilleure acuité auditive que les personnes âgées. Cela est dû au fait que l'audition a tendance à diminuer avec l'âge en raison de divers facteurs, tels que l'exposition au bruit, le vieillissement naturel de l'oreille interne ou d'autres problèmes de santé. Cependant, il est également important de noter que les personnes âgées peuvent parfois développer une sensibilité accrue à certaines fréquences sonores, ce qui peut rendre certains sons plus forts ou plus désagréables pour eux. En fin de compte, la perception du son et des oreilles peut varier d'une personne à l'autre, quel que soit l'âge.
Avec Margot, nous avons préparé un petit sondage à l'échelle de notre classe ainsi qu'à l'extérieur. Nous allons en expliquer le but ainsi que nos analyses et interprétations que nous en donnons.
Le but étant de faire une moyenne des décibels lors des écoutes et expositions sonores, en particulier avec le téléphone. Elle tourne autour d'une tranche de 67 à 74 décibels pour les plus hautes expositions. Il est à noter que ces données ne comprennent pas les autres sources d'exposition telles que les concerts, la télévision, les gares, les autoroutes et autres. Tandis qu'avec les personnes âgées, leur nombre de décibels détient un niveau beaucoup plus bas que l'analyse des jeunes précédentes. Ils ont également un niveau de vie moins exposé, pour la plupart, aux grosses sources sonores que nous avons maintenant, prévenant donc des risques de celles-ci.
Nous pouvons donc en dire qu'il y a des potentiels risques, et nous en vous montrons quelques-uns, et nous savons comment ils subviennent.
Les fortes expositions sonores peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé auditive, et ces risques comprennent la perte auditive permanente ou temporaire, les acouphènes, les petits bourdonnements dans les oreilles, les troubles de l'équilibre, les maux de tête, la fatigue et le stress. Il est important de prendre des précautions pour protéger votre audition, notamment en évitant les environnements bruyants, en portant des protections auditives lorsque vous êtes exposé à des niveaux sonores élevés, et en limitant la durée d'exposition à des volumes sonores forts.
Merci à vous deux, Zoé et Margot. Nous espérons que ce bref aparté info assez surprenant vous a conquis et alerté sur ces dangers. On le sait, certains bruits aigus sont désagréables à entendre pour nous. Vous expliquez ces phénomènes, Maëlle et Cassandra.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, qu'appelle-t-on un son aigu ?
Un son aigu ou grave est défini par sa fréquence. Fréquence qu'on peut définir par le nombre de cycles complets de variations qui se succèdent en une seule seconde. Plus la fréquence est faible, plus le son est grave, et inversement, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.
Mais comment considère-t-on qu'un son est grave ou aigu ?
De 20 à 200 Hz, le son est considéré comme grave. Entre 201 et 2000 Hz, le son est moyen, et de 2001 à 20 000 Hz, le son produit est aigu.
Pourquoi ressent-on des frissons au bruit aigu ?
Tout d'abord, il faut savoir que pour les êtres humains, les bruits les plus désagréables à entendre se situent entre 2000 et 5000 Hz. À présent, il faut se rendre dans l'oreille pour comprendre ce phénomène de frisson. Lors d'un bruit aigu perçu dans l'oreille, plusieurs organes sont abîmés et peuvent même être détruits.
Quels sont ces organes ?
Les organes touchés sont le tympan, à l'entrée de l'oreille juste après le conduit auditif, lui aussi touché, et la cochlée, un petit organe ressemblant à une coquille d'escargot dans le fond de l'oreille, que l'on appelle aussi oreille interne.
Mais si tout se passe au niveau des oreilles, comment expliquez-vous les frissons ?
Eh bien, c'est ici justement la magie du corps humain. Après avoir atteint la cochlée, le son est emmené au cortex auditif, qui est la partie du cerveau qui traite les sons, pour que les caractéristiques de ceux-ci soient déterminées. Le cortex auditif interagit avec l'amygdale, qui est le siège du stress et de la peur. Elle amplifie la perception au niveau du cortex auditif, qui le traite comme un signal d'alerte en retour.
Ce phénomène de frisson est donc normal si je comprends bien.
Exactement. Suite à ce signal d'alerte envoyé par l'amygdale et le cortex auditif, il y a une réaction tout à fait normale avec du stress et donc des frissons.
Donc pour conclure, ce phénomène est ressenti chez tout le monde. C'est une sorte de réflexe des organes touchés par le son.
Voilà.
Merci pour ce passage. Camille et Lovely vont nous en dire plus sur les dommages causés par les différents styles de musique.
La musique est omniprésente dans nos vies et joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel et psychologique. Mais la musique peut également avoir des impacts physiologiques, notamment sur notre audition. Mais nous allons donc aujourd'hui étudier la manière dont différents styles musicaux peuvent altérer nos oreilles. Pour connaître et comprendre comment la musique affecte nos oreilles, il est important de connaître la base de l'anatomie de nos oreilles. En effet, l'oreille humaine est composée de trois parties principales. Tout d'abord, l'oreille externe qui capte les ondes sonores, puis l'oreille moyenne qui amplifie et transmet les vibrations, et enfin l'oreille interne qui transforme les vibrations en signaux nerveux, transmis ensuite au cerveau.
Mais l'écoute de différents styles de musique a des conséquences sur celle-ci. La musique classique a tendance à être bénéfique pour notre audition, car les dynamiques sont variées et ses places de fréquence sont étendues. De plus, elle est généralement jouée à des niveaux de volume modérés.
La musique rock et metal est quant à elle jouée à des volumes très élevés qui peuvent donc entraîner des dommages auditifs comme des acouphènes ou une perte auditive. Les fréquences élevées et les basses puissantes peuvent donc causer des micro-lésions dans les cellules ciliées de l'oreille interne.
La musique électro et techno utilise elle aussi des basses fréquences intenses ainsi que des sons répétitifs. Les basses peuvent donc provoquer des vibrations excessives dans l'oreille et donc l'endommager. Elle, la musique pop, est généralement moins agressive que le rock ou le métal, mais a une écoute prolongée à un volume élevé comme par exemple les écouteurs, qui peuvent causer des dommages auditifs similaires.
Mais il existe quand même certaines solutions pour atténuer ou retarder ces dommages, comme par exemple l'utilisation de bouchons d'oreille lors de concerts, ou encore un volume plutôt modéré lors de l'écoute. Et pour finir, il suffit de s'imposer des périodes de repos afin d'éviter une exposition prolongée.
We'll be right back.
là. On l'a remarqué, les avions de chasse sont assourdissants. Coralie et Victoire vont nous donner plus de détails à ce sujet.
Bonjour.
Bonjour. Le 8 août, la patrouille de France survolera Paris pour les Jeux Olympiques. Les personnes présentes dans la capitale pourront observer le spectacle, mais ce spectacle a des impacts sur nos oreilles. En effet, les avions font beaucoup de bruit et peuvent impacter les cellules ciliées.
Les cellules ciliées sont des organes situés dans l'oreille interne, donc dans le fond de l'oreille. Les bruits font vibrer les tympans qui se répercutent sur les cellules ciliées. Celles-ci vont envoyer un message nerveux au cerveau qui interprète les bruits. Mais le son que produisent des avions sont-ils vraiment dangereux ?
Nous allons nous intéresser aux bruits que nos oreilles peuvent supporter. À partir de 90 décibels, nos oreilles sont en danger, mais le seuil de douleur est à partir de 120 décibels. En moyenne, un avion de chasse atteint 130 décibels. Donc, un avion de chasse dépasse le seuil de douleur de nos oreilles. Ces sons sont produits par certaines parties de l'avion.
En effet, ce qui produit le bruit des avions est le son du moteur qui contient les bruits internes et le bruit jet, qui est le son que produit le mélange du gaz éjecté dans l'air ambiant. Enfin, il y a le bruit aérodynamique, qui est le bruit des trains d'atterrissage ou des volées.
Ces bruits produits par des avions de chasse peuvent entraîner des troubles du sommeil ou des troubles d'apprentissage si les cellules ciliées sont endommagées ou que la présence de bruit est répétée. Mais ce problème pourrait s'arranger. En effet, la NASA est en train de développer un avion de chasse qui fait peu de bruit, environ 70 décibels, ce qui correspond au bruit quand on ferme la portière de la voiture, donc environ 60 décibels de moins qu'un avion de chasse normal.
Pour conclure, les avions de chasse impactent nos oreilles à cause du volume sonore élevé qu'ils produisent, ce qui cause un endommagement des cellules ciliées dans nos oreilles internes, mais ce problème pourrait s'arranger grâce à la NASA. Mais d'ici là, vous pourrez voir la patrouille de France aux Jeux Olympiques et n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles.
Et enfin, je suis avec Paul-Arthur et Faustine. Ils vont nous expliquer les différentes causes de la surdité.
Bonjour et bienvenue sur notre chronique radio. Je suis Faustine et je suis accompagnée de notre chroniqueur Paul-Arthur.
Bonjour Faustine et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes causes de surdité.
La cause de surdité la plus fréquente est donc la surdité de transmission qui relève d'un problème au niveau de l'oreille externe ou moyenne et qui empêche la transmission correcte du son. Tous les bruits sont donc perçus faiblement. Cela peut être dû à une perforation du tympan ou encore à une infection de l'oreille moyenne.
Ensuite, la surdité de perception est la cause d'un trouble à l'oreille interne. Les fréquences aiguës sont en général les premières touchées. Sa principale cause est le vieillissement du système auditif, ce qui explique, comme l'ont dit nos camarades tout à l'heure, une audition plus faible chez les personnes âgées. Mais cela peut être lié à d'autres causes comme la nuisance sonore ou des infections virales.
La dernière cause la plus répandue est donc la perte auditive mixte, qui est la combinaison de la surdité de transmission et de la surdité de perception.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Voilà qui conclut notre émission et j'espère vous revoir dans une émission future.